rencontre qui inaugure notre nouveau fil rouge de cette année, qui est donc Regard à géométrie variable sur le monde. Et donc cette rencontre aujourd'hui réunit un photographe, Laurent Villeret, qui est à ma droite, et un écrivain, Julien Blangras, qui est à ma gauche. Laurent Villeret est photographe indépendant. À partir de 1996 jusqu'en 1999, il est photographe aérien dans le golfe Persique aux Émirats Arabes Unis, puis en Afrique. À son retour en France en 1999, il est photographe indépendant. Il partage son activité entre la presse, la publicité, la communication, les travaux personnels. Et il intervient également dans l'enseignement de la photographie au Centre Iris. En 2002, il fonde avec deux autres photographes le collectif Dolce Vita, dédié à la photo documentaire. En 2007, Dolce Vita intègre la coopérative Picture Tank, ce qui permet à Laurent Villeret de publier ses archives en ligne qui sont disponibles. Son univers photographique, il le développe autour de son projet Les Héliotropes, dont on va parler aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, une sorte de voyage intemporel qui est réalisé au Polaroid. Donc cette démarche singulière l'a conduit de la Mauritanie à la Russie, en passant par Zanzibar et la Chine. Julien Blangras, qui est à ma gauche, donc, il est écrivain voyageur, journaliste, il est reporter pour la presse écrite, notamment le magazine Du Monde, et a été chroniqueur radio sur France Inter. Ses 4 romans sont publiés aux éditions du Diable Vauvert. Depuis la parution du premier d'entre eux, Gringoland, qui est paru en 2005, Julien Blangras aime à citer Rudyard Kipling, qui dit « Tout bien considéré, il n'y a que 2 sortes d'hommes dans ce monde, ceux qui restent chez eux et les autres. » Tout un programme. Dans son troisième livre, intitulé « Touriste », en 2011, il fait le projet de parcourir méthodiquement la carte du monde pour en visiter tous les pays. Et à ce jour, il lui en reste encore plus d'une bonne
Quelques-uns.
centaine, à peu près 130, je crois, sur les 197 pays qui existent. Son éditeur assure qu'il a déjà arpenté les favelas colombiennes, les hôtels clubs tunisiens, les karaokés de Yantsekiang, les villages oubliés du Mozambique, les vagues polynésiennes, les plateaux de Bollywood, le tumulte du Proche-Orient et même la Suisse. Son premier roman se passe en Amérique latine et le dernier paru, Paradis avant liquidation, examine les îles Kiribati qui sont menacées par la montée des eaux. Je vais commencer avec vous, Julien. Pourquoi être parti si loin dans l'océan Pacifique? Qu'est-ce que c'est que cette histoire rocambolesque?
Déjà parce que partir loin, c'est toujours bien. Je pense que tous les voyageurs aiment partir le plus loin de chez eux possible. Et ensuite, ce pays, donc les îles Kiribati, ça s'écrit Kiribati, mais ça se prononce Kiribati, ont une particularité, c'est qu'elles sont menacées par la montée des eaux due au changement climatique. Et le déclic qui m'a donné envie d'aller là-bas, c'est la lecture d'une dépêche dans la presse expliquant que le gouvernement des Kiribati allait acheter un morceau d'île au Fidji, le pays voisin, acheter un morceau d'île dans l'optique d'un transfert intégral de la population hypothétique au cas où le pays disparaisse à cause de la montée des eaux. Parce que c'est un pays très plat, ce sont des atolls coralliens, il n'y a pas de relief, donc ce sont les premiers menacés par ce problème. Et je me suis dit, c'est quand même complètement dingue qu'un pays envisage sa propre disparition physique. C'est assez inédit, je crois, dans l'histoire de l'humanité, on va dire. Et voilà, je me suis dit, il faut aller voir là-bas pour déjà démêler le vrai du faux dans cette histoire. Et puis voir comment les gens vivent avec cette épée de Damoclès climatique au-dessus de leur tête. Voilà, je voulais faire le portrait de ce pays qui est peut-être appelé à disparaître. Il fallait documenter ça avant qu'on puisse plus le faire, quoi.
Et donc cette volonté de documenter un peu ce qui se passe, ça fait toujours partie de votre démarche. Vous aimez partir comme ça par rapport à ce que vous rencontrez dans le monde, le hasard qui vous pousse vers telle et telle direction, ou comment ça se passe?
Quand on part, je pense que c'est commun à tous les écrivains voyageurs, journalistes, photographes, c'est qu'on est poussé avant tout par la curiosité, l'envie de rencontre de l'autre, de l'altérité. Bon, c'est un cliché sur le voyage, mais c'est vrai, c'est une base, je pense, pour tous les gens qui font ces métiers-là. Alors moi, j'ai beaucoup voyagé au début dans ma jeunesse, par loisir, sans but précis, en improvisant. Ensuite, je me suis mis à écrire et à voyager en étant un peu moins conséquent, c'est-à-dire voyager avec des projets, avec l'idée de ramener quelque chose et de transmettre quelque chose. Donc, ces histoires que je vivais, les mettre en forme, les transmettre, en faire des romans, des livres pour les transmettre, pour que ce soit lu.
Et donc vous, Laurent, on va peut-être commencer peut-être en regardant quelques photos que vous avez réalisées pendant ces 10 dernières années sur un projet personnel, ou ce sera peut-être plus facile pour que vous rendiez compte du
Bonsoir.
travail effectué.
D'accord. Alors je vous présente donc effectivement le projet que j'appelais les héliotropes, que j'ai commencé il y a 10 ans. Alors c'est un peu par hasard sur un carnet de voyage, donc je suis mu par les mêmes motivations des voyageurs. Au détour d'un voyage en Inde, donc je vais commencer par celui-là. Par contre, je sais pas si ça marche.
Il met un peu de temps,
Ah.
mais voilà.
Demandez un petit instant.
Ça, c'était ton premier voyage sur Pluton, donc.
C'est ça. Technologie.
Et donc le voyage en Inde, c'était le premier voyage qui a...
En 2003, ouais, qui était juste entre guillemets un voyage en dilettante, simplement découverte d'un pays comme j'aime faire souvent. Et j'avais la, alors évidemment ça va pas être la bonne taille, j'avais la volonté de faire un carnet de voyage comme on fait en général, en ramassant des éléments, etc. Et donc je suis parti avec du Polaroid en me disant je vais faire mes photos et je vais pouvoir les coller directement sur place pour créer le voyage. Alors attendez, on va faire ça. Je vais y arriver, hein. Génial, mais...
semblait que tu m'avais dit que sur le premier voyage, tu étais revenu finalement avec très peu de photos
Là, il n'y en a
ou...
pas tant que ça en fait. Hein. Et en fait, c'est vraiment tout ce que j'avais. Alors, pour vous expliquer, parce que je pense que vous avez vu un petit peu l'aspect particulier de ces images, qui ressemblent finalement un peu de loin à la photographie, enfin qui est un peu à cheval avec la gravure et les aquarelles. Et donc, c'est un procédé que j'avais découvert en faisant mes études en école de photographie, en utilisant du Polaroid et en l'écrasant sur du papier aquarelle mouillé. Bon, il faut savoir que moi, ce qui m'a attiré à la photographie, c'était quand j'étais au lycée, le tirage noir et blanc. Je faisais des tirages dans le révélateur à la lumière rouge. Et je suis très attiré par le papier. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté sur ce type de procédé Il y a plein d'autres types de procédés. Et celui-là, il était intéressant parce que donc, je le faisais sur place et ça me permettait donc, de créer ce fameux carnet de voyage en live. Alors le problème, c'est que techniquement, ça demande de l'eau, une surface plane. Ensuite, il faut écraser avec un rouleau encreur. Ensuite, il faut laisser sécher le tirage. Donc quand on est en voyage comme ça dans des pays fort beaux, mais avec des, comment dire, des conditions climatiques
assez... Ouais, il faut partir avec un wagon, quoi.
Voilà, c'est pas très très pratique. Donc du coup, à l'issue de ce voyage, donc au départ, c'est, je le considère pas vraiment en faisant partie du projet, même si c'est le départ vient de là. Et ensuite, je suis parti donc dans d'autres pays où là, j'ai décidé moi, d'un point de vue photographique, de partir avec un petit appareil léger et de faire le traitement qui me permet d'avoir ce rendu-là après au retour. Donc ce qui me permettait, d'un point de vue écriture photo, d'être beaucoup plus souple, moins posé, moins lourd, et de pouvoir ensuite aussi au niveau des cadrages être vraiment dans l'écriture du carnet de voyage ou essayer moi ce qui m'intéresse dans la photographie finalement c'est pas de montrer les choses, c'est de faire ressentir les choses, d'où l'usage aussi de ce procédé qui détériore la qualité de l'image et qui pour moi est intéressant parce que fait appel plus à l'imagination du lecteur de l'image plutôt que de montrer quelque chose de très défini. Donc plus, entre guillemets, plus l'image est dégueulasse, plus j'aime. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir vraiment, je pense, en tant que lecteur, enfin vous, enfin je ne sais pas si on dit lecteur d'image, s'approprier ou faire du ressenti en utilisant ce procédé. Alors si vous n'en avez pas marre, je vais vous montrer donc le voyage d'après, qui était en Mauritanie, notamment dans une ville qui s'appelle Walata, qui est à la frontière, qui est comment dire, complètement à l'est du pays de la Mauritanie, pas très loin de la frontière algérienne et malienne. Donc, et là, on est pareil dans un environnement qui est complètement, comment dire, intemporel. Je vais te faire ça. يا مرايا فكر والديا
عليك يا مرايا فكر مليار
عليك يا مرايا فكر والديا
عليك يا مرايا فكر
la stylistique et le style qui évidemment questionne beaucoup, mais j'aimerais savoir, pour faire la relation avec ce qu'a dit Julien, toi comment tu pars, comment tu choisis des destinations, la Mauritanie, l'Inde, comment ça s'est fait? Est-ce que c'était...
Un peu comme Julien, de par dans ma genre, comment dire, dans ma tendre enfance, on a pas mal voyagé, on va dire touristiquement. Enfin, bon, de toute façon, c'est toujours un peu ce que je fais quand même, malgré tout. Mais du coup, ce qui m'intéressait, c'est d'aller dans des pays qui n'étaient pas des destinations justement connues. Et notamment la Mauritanie à l'époque, parce que c'était quand même il y a un certain temps, il n'y avait pas encore tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, et c'était assez peu connu, enfin c'était pas une destination qu'on y allait souvent, enfin bref. Et donc du coup moi j'aime beaucoup ces endroits où je ne sais pas où je vais. Ce que je cherche dans le voyage, c'est la découverte, c'est un peu comme quand on va au cinéma, si on vous raconte le film avant, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller au cinéma. Et pour moi, le voyage, c'est pareil. Et j'ai la plupart de mes destinations... Alors là, bon, la Mauritanie, j'avais un attrait pour le désert. Donc après, voilà, il y a plein de pays qui ont cet environnement-là du désert. Et donc, je suis parti là-bas. Et notamment, après, j'ai fait quelques recherches. Et j'avais vu cette ville qui s'appelait Walata et qui est basée sur le chemin des caravanes de sel, et qui a encore des caravanes de sel aujourd'hui qui passent de temps en temps. Enfin bon, ça reste assez anecdotique, mais qui vit complètement en autarcie. Et donc vraiment, par rapport au voyage, je cherche, comme beaucoup d'entre nous, le dépaysement, enfin la découverte. Plus je suis surpris et plus j'apprécie la découverte du voyage. Donc après, toutes mes autres destinations sont parties un petit peu comme ça. Mais en fait, le début du projet, donc, s'est fait avec ce voyage-là, les héliotropes. Et de par le procédé utilisé, le côté intemporel qui est assez marqué, notamment dans cette série-là, puisqu'il n'y a pas d'éléments contemporains dans les images, je suis parti dans l'idée de créer en fait un pays imaginaire. Enfin, des pays imaginaires. Et donc en fait, c'est par rapport à cette idée de créer ce pays imaginaire, c'est ça qui a motivé mes destinations. Donc là, j'avais, on va dire, d'un point de vue paysage, un environnement désertique. Donc juste après, je suis allé en Chine parce que je voulais un environnement ultra-urbain. Je suis allé ensuite à Zanzibar parce que je voulais un environnement au bord de l'eau, insulaire. Donc pour créer un petit peu ce pays avec tout ce que la planète offre comme possibilité de paysage et de mode de vie différent finalement. Et donc,
C'est très frappant dans les photos. Et justement, ce qui m'étonne un peu, c'est par exemple par rapport à toi, Julien, on a l'impression que c'est l'inverse que tu cherches. C'est presque plonger dans la réalité, essayer de la.
Alors, c'est vrai, mais ça dépend des livres. Certains de mes livres sont des romans de voyage, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur mes voyages effectivement vécus, mais je me permets un peu de fiction, je mens en fait, parce que j'ai le droit, c'est un roman. Et le dernier est un récit, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus proche de la forme journalistique. Je suis aussi journaliste, donc j'ai fait un peu converger mes deux activités. Donc c'est un récit journalistique littéraire, et pour le coup dans celui-là il y a un côté documentaire où les noms des gens sont vrais, les situations sont exactes, je ne mens pas dans celui-là. Donc, bon.
Et est-ce que toi tu utilises aussi la photographie certaines fois pour comme source de...
Alors je suis un piètre photographe, mais je m'en sers pour fixer des souvenirs comme bloc-notes, comme pense-bête, parce que les choses qu'on vit, on essaye de capter des sensations, des situations comme ça. Et si on prend une ou deux photos, ça permet de la revoir d'une manière différente après, de remarquer des détails qu'on n'a pas captés quand on a vécu cette situation la première fois. Donc voilà, c'est un outil qui aide pour l'écriture.
D'accord. Et donc toi, par rapport à ton travail de journaliste, disons, enfin de photographe plutôt dans la presse, etc. C'était un moyen de t'échapper, ça aussi, de pouvoir... Comment tu équilibres les deux activités, même au niveau, même technique, je pourrais dire. Est-ce que y avait un besoin aussi de s'échapper de l'argentique et...
Alors, oui, complètement. Enfin, de s'échapper plutôt du numérique, puisque dans l'activité... Bon, moi, j'ai commencé la photographie, c'était... le début du numérique. Effectivement, en fait, en faisant ces voyages-là, ça me permet de m'échapper, et bon, d'abord géographiquement d'ici, et aussi effectivement dans la production photographique, où finalement on est assez contraint de par les commandes qu'on fait dans la presse, etc. Et du coup, moi, je voulais absolument exploiter mon univers photographique. Donc déjà, ce qui n'est pas évident, c'est de se faire financer ce genre de projet. Donc du coup, je pars tout seul, je m'autoproduis. Comme ça, je ne demande rien à personne, je ne dois rien à personne. Et finalement, en termes de liberté, par rapport au voyage, qui pour moi synthétise la liberté, je trouvais que c'était intéressant. Et puis, ce genre de... Bon, alors là, vous voyez à l'écran, mais bon, après, il faut voir aussi les tirages papier, puisque à l'origine, moi, je suis un amoureux du papier, donc qui a quand même une certaine texture. C'est le genre de production qui est absolument impossible professionnellement à faire valoir, enfin, c'est-à-dire à intéresser. Tout le monde trouve... Enfin, tout le monde. À chaque fois que je montre le travail, globalement, il est intéressant, mais il est absolument inexploitable d'un point de vue professionnel, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est mon travail personnel que je présente dans les festivals ou les choses comme ça pour emmener dans mon univers à moi, finalement. Parce que ce que je vous disais là auparavant, c'est que je veux créer mon univers en utilisant la photographie et effectivement s'échapper d'une certaine réalité au final.
Est-ce qu'il y a une volonté chez toi, Julien, de aussi vouloir témoigner de ce qui se passe dans les îles Kiribati, qui est quand même effectivement assez...
Oui, alors le thème du bouquin, c'est le changement climatique. Enfin, disons que c'est de fil rouge à la narration. Je ne voulais pas en faire un essai ou une thèse parce que c'est tout de suite un peu plus indigeste. Donc, je voulais vraiment que le thème soit intégré dans une narration romanesque. Après, je ne suis pas petit du tout dans une démarche militante. C'est vraiment une démarche d'écrivain, de journaliste. Voilà, l'idée, c'était de faire le portrait d'un pays qui existe pour le coup et qui n'existera peut-être plus, qui sera bientôt peut-être une fiction ou un souvenir. Donc voilà, c'était ça l'idée. Ouais.
Et est-ce que tu peux parler de ce personnage assez incroyable que tu as rencontré donc, dans ce voyage, qui était en même temps conducteur de taxi, le seul taxi?
Alors, en fait, le bouquin est découpé en courts chapitres qui sont des scénettes, des petites séquences et qui correspondent souvent à des portraits. C'est les gens que je rencontre tout bêtement. Et il y a un personnage dont je me suis servi comme autre fil rouge de la narration. C'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas qui est devenu un ami, qui s'appelle Kaoré Babo, que j'avais rencontré alors qu'il était en train de porter des sacs de ciment pour construire une digue, parce qu'à Tarawa, qui est l'île capitale des Kiribati, on construit des digues autour de l'île pour contenir l'érosion côtière. Donc il m'a expliqué ce que les gens faisaient là, et il a été très accueillant et pourvoyeur en information. Et il se trouve que, non content d'être ouvrier bénévole pour la construction de ces digues, c'était un ancien professeur de sciences et qui s'était reconverti à la retraite en taxi. C'était l'unique taxi du pays au Kiribati, parce qu'il y a plein de choses qui n'existent pas au Kiribati, notamment les taxis, avant que ce Kaoré ne s'en occupe. Donc bref, cet homme-là m'a servi de guide et d'ami pendant toute la durée de mon séjour. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer plein d'autres gens, ça m'a ouvert plein de portes.
On peut peut-être revoir encore quelques photos. Alors, un autre voyage, peut-être.
Oui, alors là, c'est...
Pour essayer de justement développer ce thème de l'onirie.
Alors, donc, en partant dans l'idée donc de créer mon pays imaginaire, enfin mes pays imaginaires, j'ai eu l'occasion de partir l'année dernière à Moscou, et je voulais me plonger plutôt dans un univers urbain, mais plutôt très froid, pour faire le grand écart avec la Mauritanie en l'occurrence. Et donc, et là on est dans... Et le son est froid aussi.
Ouais, c'est très beau, mais c'est un peu flippant aussi. C'est fait exprès. Alors, il y a peut-être la musique qui joue aussi, mais il y a un aspect presque post-apocalyptique. C'était volontaire ou
ben, en fait, par rapport, c'est du ressenti finalement. Donc, j'ai passé un mois là-bas. Et j'espère que je vais choquer personne, mais moi, Moscou, c'était. Donc c'était une production aussi de ces photos-là pour un festival photo qui a eu lieu 3 mois après.
Et pour l'instant, on n'est pas choqué, je crois.
Non, pour l'instant ça va. C'est juste que en fait, le jour du vernissage, il y a la télé russe qui me demande « Alors, vous avez aimé Moscou ?» Et j'ai dit non. Donc ça se fait pas trop dire ça comme ça à la télé, mais bon. Mais enfin, aimer après, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Moi, j'étais ravi de passer de faire ce mois d'hiver là-bas et de cette découverte. Mais après, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu en étant pendant ce voyage-là. Et donc, dans le choix des couleurs aussi, parce que l'on voit que par rapport au voyage précédent, les séries précédentes, j'utilise vraiment les couleurs aussi pour exprimer ce que je ressens. Et là, cette espèce de couleur froide, bleutée, et la tête des gens dans le métro, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que dans le métro, c'est tout. C'est la même chose à Paris, on fait tous la tête.
Paris, hein. C'est pas mal aussi. Ouais.
Donc, mais c'est volontaire, effectivement, de partir dans cette façon-là de voir la ville. Et effectivement, c'était par rapport à un ressenti que j'ai. Voilà, c'était une ambiance un peu particulière.
Et au niveau stylistique, est-ce qu'il y a des photographes ou des types de photographies qui t'ont particulièrement inspiré ou...
C'est un peu difficile à répondre ça parce que c'est plus dans des courants, mais j'avoue que j'ai été assez sensibilisé par l'époque pictorialiste qu'il y a eu en photographie dans les années 20 avec des photographes comme Steichen et d'autres que je me souviens plus de leur nom. Mais donc qui jouent effectivement sur cette espèce de rendu comme ça, très peu défini, et qui utilise donc des procédés qu'on dit anciens ou alternatifs aujourd'hui. D'ailleurs, ça revient à la mode depuis que le numérique est arrivé, comme quoi on veut se réapproprier l'image de faire de façon manuelle et pas une espèce d'objet électronique comme ça. Mais à la fois mixé aussi avec, on va dire, de la photo plus contemporaine, du type de reportage. Je vous disais tout à l'heure que je partais avec mon petit boîtier 24-36, qui, sur certains cadrages qu'on peut voir là sur cette série-là, par exemple, je trouve qu'il y a des cadrages qui sont plus contemporains et moins posés, plus dans le reportage, enfin dans l'action, enfin un petit peu. Et donc, là, je ne saurais pas dire qui m'aurait influencé là-dedans, parce que c'est plus une espèce de production contemporaine qui est aujourd'hui. Moi, j'avoue que dans les contemporains, il y a un photographe qui s'appelle Paolo Pellegrin, qui est chez Magnum, par exemple, que je trouve très intéressant dans sa manière d'aborder à la fois le. Donc, c'est un photographe qui fait aussi pas mal de conflits, donc vraiment la photo journalistique pure, de guerre, etc. Mais qui, justement, va utiliser le noir et blanc, le grain, et va essayer d'esthétiser, finalement, la photo documentaire, enfin, journalistique, en tout cas. Et j'aime bien, en fait, cette idée-là, de se dire. Ça peut paraître choquant, c'est pas rendre beau la guerre, c'est pas ça le propos, c'est juste. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, dans de la presse engagée, par exemple, je trouve les photos moches. Et je trouve ça dommage de pas essayer de communiquer, justement, du contenu, c'est-à-dire quelque chose d'intéressant. Et ça fait partie. Pour moi, c'est important aussi de. Ça fait partie de la générosité de le communiquer. Donc pourquoi pas, l'esthétique, c'est quelque chose qui. De l'ordre du ressenti et qui aide à mon avis à faire passer quelque chose de plus profond. Et par exemple, pour en revenir à cette série-là, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais il y avait une manifestation qui était au moment des élections de Vladimir Poutine. Et donc, de par le procédé photographique utilisé, je trouve que donc on est dans un environnement, on ne sait pas temporairement où on est, ça pourrait être au début du siècle, maintenant, etc. Et je trouvais ça très impressionnant d'avoir cette image-là de manifestant avec un panneau avec un dictateur sur le panneau, donc évidemment en révolte. Et franchement, c'est une image, on aurait pu voir Lénine sur le panneau, ou Staline, sauf que c'est Poutine. Et du coup, je trouvais ça intéressant de travailler sur le raccourci dans le temps, c'est-à-dire qu'en gros, on fait la photo aujourd'hui, et on retrouve exactement le même type d'image que dans les années 20, ou avec les mêmes problématiques politiques, ou presque, en tout cas. Donc du coup, je trouvais ça intéressant, ce raccourci du temps que la photographie arrive à faire, puisque donc on fige et voilà, donc je trouvais ça intéressant de travailler là-dessus.
Et Julien, toi, par rapport à parce que là, toi, tu as une grande tradition derrière toi d'écrivain voyageur.
Oui, il y en a quelques-uns.
Est-ce qu'il y a une tradition particulière ou quelques écrivains voyageurs qui t'influencent particulièrement?
Alors, dans le cas de mon voyage aux îles Kiribati, il y avait l'exemple évident de Stevenson, qui n'a pas seulement écrit L'île au trésor et Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais qui était un grand écrivain voyageur. Et qui est allé au Kiribati, à l'époque ça s'appelait Zille Gilbert, donc il y a une centaine d'années, il est passé là-bas avant moi, donc j'ai essayé de marcher sur les traces de Stevenson. Je suis allé sur l'île où il est allé en essayant de trouver des vestiges de son passage, bon j'en ai pas trouvé mais j'ai essayé. Donc Stevenson, super, et sinon j'aime beaucoup Richard Kapuscinski, qui est un grand reporter polonais qui est mort il y a quelques années, qui a couvert principalement l'Afrique, mais pas que ça, loin de là, toutes les décolonisations à partir des années 50. La chute du Shah d'Iran aussi. Voilà, Shah d'Iran, le Négus. Et donc c'est quelqu'un qui avait un sens du reportage et de la précision et qui savait raconter les histoires comme si c'était des romans d'aventure. D'ailleurs, il est accusé parfois d'avoir un peu pipoté, donc ça c'est un problème quand on est en reportage. Mais ce type-là donnait l'impression d'être toujours de vivre le cœur de l'histoire. Et donc voilà, ça se lit comme un roman et c'est plein d'informations et on a l'impression d'y être. Donc voilà, Kapuscinski, c'est formidable. Et puis sinon, il y a Nicolas Bouvier qui est un écrivain voyageur suisse qui n'était pas si connu que ça de son vivant, mais qui est désormais le modèle de la plupart des écrivains voyageurs contemporains et qui est connu principalement pour un livre qui s'appelle L'usage du monde, qui relate son voyage de la Suisse à... assez loin en Orient. Voilà, donc c'est les quelques écrivains voyageurs que je peux citer comme influence.
Et est-ce que toi, quand tu écris, est-ce que tu te mets en scène? Est-ce que c'est important que ta personnalité apparaisse dans l'écriture, mais évidemment, mais dans les scènes que tu racontes?
J'écris toujours à la première personne. Alors quand c'est des romans, c'est le personnage, le narrateur, c'est mon alter ego, c'est-à-dire que c'est moi sans être tout à fait moi. Là, dans le récit, le jeu, c'est moi, Julien Blangras. Oui, je fonctionne comme ça. Alors je sais, c'est peut-être par narcissisme ou mégalomanie, mais en fait, pas tant que ça, je crois pas. C'est juste que je trouve ça permet. J'aime lire les récits à la première personne. Ça permet de savoir qui parle et où il se place par rapport à l'action qu'il décrit. Lire reportage traditionnel un peu froid qui n'utilise pas la première personne, même s'il y en a des formidables, il me laisse un peu sur leur faim parce que je sens pas qui l'a écrit et j'ai envie d'entendre une voix quand je lis quelque chose comme ça. Quand on me raconte un pays, je veux savoir qui me le raconte. Donc voilà, et puis à titre c'est un procédé qui m'est naturel à titre personnel. Et puis ça permet de mettre aussi d'assumer toute la subjectivité du truc, de montrer les coulisses du reportage ou du récit. Quand on lit un reportage qui n'est pas écrit à la première personne, on ne sait pas forcément comment la personne a trouvé ses informations. Quand on se met en scène dans la quête d'informations et de reportage, on informe encore plus le lecteur, à mon avis. Et puis ça peut permettre de faire des blagues accessoirement.
Et alors toi, en revanche, tu t'effaces complètement dans le voyage.
Oui. Enfin, là, dans cette série-là que je travaille depuis 10 ans, bon, par exemple, le titre, j'ai choisi les héliotropes pour leur donner une certaine autonomie. En fait, j'ai envie que ces objets existent. Que, alors, peut-être que c'est moi qui les fais, enfin, qui les crée, mais pour moi, ce qui est important, c'est pas moi. Enfin, après, c'est mon ressenti par rapport au voyage, mais de toute façon, l'objet, voilà. Moi, j'ai l'impression, pour moi, la photographie, ou d'ailleurs les arts en général, parce que je pense qu'il n'y a pas que la photographie qui répond à ça. Pour moi, le principe, c'est de se dire, moi, je mets donc du ressenti, des sentiments, des émotions, etc., dans l'image. Et l'image, pour moi, est le véhicule pour ensuite, auprès des lecteurs ou des gens qui vont voir les images, eux-mêmes ont un ressenti. Et pour moi, la photographie, c'est le véhicule entre les deux ressentis. Et en fait, la finalité de mon travail, c'est pas la photo, au final, c'est l'émotion qui est ressentie en voyant la photo. Et ça peut être valable, à mon avis, que ce soit pour la peinture, la gravure, le théâtre, le cinéma, la musique. Et voilà. Et donc moi, j'ai envie d'appréhender l'art par... Il y a un objet qui est un véhicule entre deux émotions. Et pour moi, c'est ça qui m'émeut le plus, par exemple, quand je fais des expositions, c'est de voir les gens qui, ont une bouffée d'émotion voyant les images ou qui leur rappellent quelque chose, qui s'approprient surtout les images. C'est ça qui est intéressant avec un travail où l'image est très peu définie comme ça. Et voilà, et donc effectivement, du coup, je m'efface au profit de cette émotion-là qui est transmise.
Et à l'heure actuelle, tu estimes que tu as à peu près circonscrit le monde cherches.
Non. Alors moi, je suis un peu jaloux parce que j'ai pas fait autant de pays que Julien. Même si j'avoue avoir essayé de regarder sur le net, à compter, j'étais 45 pays, j'étais hyper content. Mais après alors par rapport à mon projet, donc de pays imaginaire ou d'un monde imaginaire, j'avoue que j'ai encore des destinations que j'aimerais faire. Alors il y en a une qui est prévue là au mois de décembre, je vais partir au Québec parce qu'en fait quand j'étais parti à Moscou, je voulais donc mon pays polaire et malheureusement cet hiver-là, il a fait que moins 5 et pour moi c'était pas assez froid. Et donc là je retourne au Québec, donc invité pour un festival en résidence artistique et il voulait absolument que j'aille l'été, je fais « moi je veux y aller l'hiver ». Il me dit « bon d'accord, mais faut pas que tu y ailles trop tard dans l'hiver parce qu'il va faire très froid ». Mais le voyage aussi c'est un prétexte à vivre des choses qu'on disait tout à l'heure, des aventures, enfin des choses que j'ai pas l'habitude de vivre. Donc moi je veux y aller quand il fait moins 20, moins 30, pourquoi pas, bon moins 40 à mon avis, ça va me faire peur. Donc là je pars au Québec faire donc d'autres séries donc sur ce principe là pour avoir mon pays polaire bien blanc, bien froid où il y a personne. Et ensuite j'aurais aimé pour finir un petit peu ce monde imaginaire avoir une destination en forêt amazonienne ou forêt équatoriale, tropicale, parce que c'est encore une autre façon de vivre là-bas. Et puis une destination montagneuse pour avoir encore un autre mode de vie en montagne. Et là, ça, je crois que mon monde imaginaire me satisferait assez bien comme ça. Alors après, il va falloir que je crée les cartes de ce pays-là. Donc c'est en cours.
Oui, c'est complètement imaginaire. Alors, c'est vraiment avec.
Oui, donc c'est vraiment partir. Alors, c'est un peu bizarre parce que là, c'est présenté en faisant référence aux pays existants, puisque je suis allé dans les pays qui existent. Mais l'idée, c'est vraiment de créer des pays. Parce que donc, il y a un projet éditorial en cours avec ce projet, avec les héliotropes. Et donc, l'idée, c'est de faire des carnets de voyage, des petits carnets de voyage par destination de mes pays imaginaires avec une carte d'un pays avec un nom, etc.
Et toi, Julien, est-ce que tu as des projets précis
De voyage
De voyage
je pars au Japon lundi, pour c'est un reportage de commande pour la presse. Mais bon, c'est cool, parce que c'est le Japon, c'est génial, et voilà. Je suis allé à Hiroshima.
Tu connais déjà.
Je suis déjà allé quelques jours à Tokyo, mais très très rapidement aussi pour un reportage, donc je peux pas dire que je connais le Japon. Voilà, et puis un autre reportage un peu plus personnel que j'ai initié le mois prochain, je vais aller au Nigeria pour parler de l'industrie cinématographique nigériane qui, c'est assez peu connu, est la deuxième industrie cinématographique du monde après l'Inde. Ils produisent 2000 films par an, même si ça sort assez peu des frontières africaines. Donc voilà, je vais faire un sujet là-dessus.
Très bien. Je pense que le mieux est. Pour que ça soit le plus vivant, je pense que c'est bien aussi que vous puissiez réagir. Donc, la moindre réaction de votre part, c'est bien aussi, puisque c'est aussi des artistes et que c'est pas simplement discuter à une table.
Si vous avez des questions
ou des réactions, des même pour dire que c'est pas beau.
Ça marche, oui, oula. Bonsoir. J'ai une première question par rapport au fait que vous, Julien, je me permets de vous appeler par votre prénom, ce sera plus simple. Vous utilisiez la photographie comme carnet de notes, mm-hmm. d'une certaine façon. Je voulais savoir si vous, Laurent, vous utilisiez l'écriture vis-à-vis de même du projet de carnet de voyage, s'il y avait un pan d'écriture. Et si oui, quel rapport il entretenait avec les images que vous produisez ?
Alors non, en fait. non, mais en fait, bon, moi j'écris mes... Enfin, comme c'est un carnet de voyage à la base, donc quand je pars, j'écris toujours des petites notes. Malheureusement, j'ai aucune prétention d'écrire comme tu disais toi par rapport à la photo, donc moi j'ai cette voilà, j'ai pas le sentiment d'être... Par contre, par rapport au projet des héliotropes, justement là, par rapport au livre, j'ai envie de faire intervenir une autre personne, un écrivain, donc là qui est en cours et qui lui va s'approprier les images pour en faire son propre voyage. Et moi, non, a priori, moi, je vais essayer plutôt de projeter au maximum ce que je ressens, ce que j'ai envie ou ce que je vois dans les images. Et donc, après, vraiment, l'écriture, la petite écriture, les prises de notes, c'est pas vraiment d'écriture, ça serait plus des prises de notes. C'est plus pour moi, après, effectivement, pouvoir expliquer dans le projet à l'écrivain potentiel qui sera derrière.
Et j'ai une autre question toujours pour vous, c'est est-ce que vous pourriez un tout petit peu détailler, sans donner la recette et la façon dont vous travaillez, mais le procédé technique que vous utilisez, comment vous l'avez découvert, est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'adaptation, notamment lors de votre premier voyage, enfin, est-ce que c'était vraiment test avec... ses réussites et ses ratés.
Beaucoup de ratés.
Et du coup, je voulais savoir, vous disiez que désormais, vous l'utilisiez, vous faisiez du tirage au retour. Et du coup, je voulais savoir si j'ai bien compris que vous utilisez du Polaroid, mais un petit peu comme un positif que vous tirez sur papier au retour.
C'est ça. Alors, au départ, c'est un procédé que j'ai découvert dans une formation dans une école photo. J'ai fait l'école de lumière à Paris certain temps. Et par contre, c'est un procédé qui... Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Enfin, c'est de ce mérite-là. Par contre, c'est un procédé qui était utilisé plutôt en studio, on va dire pour faire de la photographie de mode publicitaire. Parce que donc, comme la mise en œuvre n'est pas évidente, il faut de l'eau, surface, etc. Donc, c'est plus facile dans un studio photo. Et du coup, moi, je voulais l'emmener effectivement du coup en voyage. Et du coup, effectivement, il a fallu s'adapter pas mal. Bon, déjà, il faut trouver le support qui va bien. Alors après, ça, c'est en fonction des goûts, parce que c'est un procédé qui on peut le faire sur n'importe quel type de support. Ça peut être sur du tissu, du bois, du papier. Alors avec plus ou moins un effet heureux, parce que en fait, c'est extrêmement aléatoire. Alors pour expliquer brièvement. On avait plus ou moins parlé tout à l'heure. Moi, j'utilise du papier aquarelle parce que j'aime beaucoup la gravure. J'en ai fait avant, d'où d'ailleurs ce penchant pour la photographie qui tend vers la gravure. Donc, c'est du Polaroid qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, ça, c'est un autre problème. Donc, du coup, mon projet, il est circonscrit par le matériel que j'ai réussi quand même à acheter, à prévoir, à faire des stocks. Et du coup, quand mon stock sera fini, c'est fini. Donc c'est un certain type de Polaroid où donc on fait la photo. Alors c'est des Polaroid, c'est pas les Polaroid que vous connaissez, j'appelle qui tirent la langue. C'est ceux qu'on utilise sur les appareils photo professionnels où on sépare le négatif du positif. Et en fait c'est au moment de la prise de vue, une fois qu'on a, bon, je fais le geste, hein, c'est parce qu'on tire le Polaroid dans un système, le procédé qui écrase les produits chimiques. Et en fait dès la prise de vue, je sépare le négatif du positif. J'ai préparé mon papier aquarelle mouillé. Alors, je sais pas si vous connaissez la gravure, mais c'est exactement le même principe. On mouille le papier avant pour qu'il puisse absorber les colorants, les encres, etc. Et j'écrase mon Polaroid négatif, le négatif du Polaroid sur le papier aquarelle. Et là, je laisse pendant 2 minutes ou 3 minutes. Et du coup, donc, on a cet effet d'aquarelle. Donc, le papier va absorber l'image. Et ensuite, on retire le négatif et on a le résultat. Mais il y a extrêmement d'aléas. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partir d'abord à faire de la diapositive et ensuite de le tirer de retour de voyage pour avoir plus d'efficacité, parce qu'un coup sur deux, ça marche pas. Alors, ça énerve beaucoup quand on a fait la photo pendant qu'on a fait une balade de 3 heures ou qu'on s'est retrouvé en haut d'une montagne, qu'on fait la photo et qu'on l'a raté, quoi. Enfin, que par le procédé, ça marche pas. Donc du coup, c'était un moyen d'optimiser le rendu, quoi. Enfin, de pouvoir être sûr. Alors par contre, c'est un autre problème, c'est que si je vous montre la diapositive originale par rapport à ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir. Donc ça demande un peu d'expérience. C'est-à-dire, bon, comme ça fait longtemps que je fais ça, je regarde l'image, elle est peut-être très belle. Enfin, je peux la trouver des qualités esthétiques ou des choses qui me parlent, mais ça va pas forcément bien rendre avec ce procédé-là. Et donc, du coup, il faut anticiper les aléas du procédé. Alors après, c'est ce qui me plaît aussi dans ce procédé et dans plein d'autres, c'est ça génère des accidents. Alors vous avez vu, il y a des traces, il y a des, pas des traces de doigts, mais des vaguelets, des choses mal définies. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, d'être surpris, comme le voyage. Si c'était pour tout prévoir avant, ça ne m'intéresserait pas. Donc là, je fais mes images. Et en fait, c'est au moment où j'enlève mon Polaroid du papier, où bah, c'est la magie qui s'opère de la photographie. C'est que là, je découvre que, ah ouais, donc là, il y a quelque chose qui fonctionne bien, que je n'ai pas maîtrisé finalement. Enfin, j'essaye de faire au maximum pour avoir un rendu qui m'intéresse. Mais au final, j'ai surtout envie d'être surpris par la découverte du procédé. J'espère que j'ai répondu à la question.
Oui, très complètement. Et juste une toute petite précision, du coup, c'est des tirages qui sont uniques.
Alors, pas tout à fait, en fait, parce que... Enfin, oui, l'original est unique, mais en fait, après, je passe par la moulinette numérique. Là, pour le coup, je suis obligé de passer par là, pour pouvoir le reproduire sur le papier identique. Mais ça, c'est aussi parce que le Polaroid est très instable dans le temps. Donc, quand je faisais mes expositions, si je laissais l'original au mur... Au bout de 3 festivals photo, je perds toutes les couleurs. Donc du coup, j'utilise ce procédé de reproduction de l'original. Alors les originaux, ils sont dans une boîte à l'abri de la lumière, de l'humidité. Et du coup, c'est des tirages sur le même papier, en fait, pigment, qui est exposé.
Oui, bonjour. Je vais poser une question, alors pour changer un peu de sujet, à Julien, en fait. Là, il y a surtout eu un focus sur votre dernier livre. Mm-hmm. Et en fait, vous avez indiqué donc, que vous aviez un peu un jeu de visiter un nombre de pays assez important. Et donc, par le passé, en fait, qu'est-ce qui a été le fil rouge un peu de tous ces voyages et dans quelle mesure ça conduit à un récit de voyage ou pas un récit de voyage
Bah, très simplement, l'envie personnelle d'organiser ma vie autour du voyage, de voyager le plus possible, parce qu'on sait bien que le monde est inépuisable. Et quand on a, je pense que tu seras d'accord, quand on a goûté la liberté de voyager, notamment de voyager seul, c'est une drogue dure. On a toujours envie de recommencer, de voir toujours de nouveaux endroits et en même temps de revenir aux endroits qui nous ont plu. Donc il y a toujours un dilemme parce qu'on ne peut pas se démultiplier. Et puis évidemment, tout ça doit être financé et on n'est pas milliardaire. Voilà, et j'ai pas d'endroit. J'aimerais bien aller sur tous les pays de la planète. Je sais bien que c'est un peu illusoire parce qu'une vie c'est pas si long, mais j'ai pas d'endroit préféré sur la planète. Mon premier grand voyage c'était au Mexique où j'étais parti pour rendre visite à un ami pendant quelques semaines et puis finalement je suis resté un an. Et donc c'est ces expériences qui ont conduit à l'écriture de mon premier roman. Et puis voilà, j'essaye vraiment de sillonner tous les continents et surtout des endroits très différents les uns des autres. J'aime ce qui est le plus éloigné de moi, donc les Kiribati pour le coup c'était pas mal parce que géographiquement c'était très très loin et aussi évidemment dans les modes de vie. Voilà, j'aime l'incongruité et la bizarrerie des destinations, des situations, tout ce qui est surprenant en fait. On a envie d'être surpris chaque jour et c'est ça qui est bien en voyage, c'est que chaque jour on est une sorte de nouveau-né parce qu'on vit des choses et on traverse des endroits nouveaux, alors que dans nos vies quotidiennes, parce qu'on a aussi des vies sédentaires, quand on rentre, la vie est forcément plus monotone, ça ne veut pas dire qu'elle est triste, mais le voyage c'est toujours une énergie supplémentaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je ne sais plus quelle était la question de départ, mais...
Enfin, je pense que c'était. Enfin, votre question est intéressante. C'est vrai que quel est le fil rouge quand tu pars, est-ce que tu es sûr que tu vas ramener quelque chose et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis, je sais pas, est-ce que tu te dis oui. Que tu vas écrire ça ou.
Bah, c'est cette question, je le disais un peu tout à l'heure. Auparavant, je voyageais pour voyager. Maintenant, je voyage pour ramener quelque chose pour que. Qu'il y a un truc qui reste et qui puisse être transmis. Et voilà, une fois de plus, on va pour chercher quelque chose, mais on ne trouve pas forcément cette chose-là. Et ce qu'on trouve à côté est parfois plus intéressant. Il faut se laisser surprendre.
D'ailleurs, je fais une petite digression, mais ça me rappelle quand on part en reportage, donc d'un point de vue professionnel, où souvent les rédactions nous envoient en nous disant « Bon, alors tu vas photographier ça, ça, ça et ça. » Et évidemment, on n'a jamais ce que les rédactions veulent, parce qu'eux, ils sont à Paris, dans le bureau. Et en fait, finalement, ce qu'on découvre sur place, ce n'est pas ce qui était prévu au départ. Et d'un point de vue professionnel, au niveau, enfin, je ne sais pas toi, au niveau journalistique, mais je trouve ça dommage de se priver de ce qu'on voit réellement, finalement, enfin, en tant que rapporteur, reporter, et souvent, et plus particulièrement sur les équipes télé, par exemple, où ils ont envie, il y a tellement d'enjeux économiques derrière que du coup, ils imposent ce qu'ils ont envie de voir, quoi. Et du coup, ils perdent effectivement ce côté liberté, se laisser surprendre, comme tu disais tout à l'heure.
Effectivement, un reportage a toujours une contrainte éditoriale parce qu'on travaille pour un titre ou pour n'importe quel média. Et c'est vrai que c'est souvent frustrant parce que finalement, c'est un job, on est payé pour faire ça, donc il faut le faire comme il faut. Mais donc, du coup, à côté de ça, quand je fais un voyage en reportage, je fais mon reportage bien carré, bien proprement, comme on m'a demandé. Et puis, je ramène de la matière supplémentaire qui nourrit mes projets personnels. Tu fais peut-être un petit peu pareil quand tu...
En fait, enfin, j'aimerais beaucoup de gens, mais j'y arrive pas. En fait, j'ai énormément de mal à me dédoubler. Et je sais que tous mes collègues font ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une occasion d'aller tout frais payé par une rédaction, je sais pas dans quel pays, on en profite. Et, mais moi, j'y arrive pas, en fait. C'est-à-dire que là, tous les voyages, j'y vais à 100%. C'est-à-dire que je me consacre que à ça. Et si c'est pour le travail, ça va être pareil. Je sais que je devrais... faire d'autres choses, profiter de ça pour travailler autre chose. Mais à ce moment-là, je préférais revenir et le faire pour moi. Donc du coup, c'est pas très efficace, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne.
Et donc ça s'est beaucoup produit chez toi? C'est-à-dire que tu vas à un endroit à un moment donné, et puis soit quand tu es sur place, soit quand tu reviens, tu te dis, il va falloir que je revienne, mais cette fois-ci pour moi.
Ça arrive moins souvent que je ne voudrais, parce que souvent on dit je vais revenir, et puis on revient pas.
Oui, mais ça m'est arrivé. Quand on part d'un endroit, on se dit « Promis, je reviendrai, c'est vraiment formidable ici. » Et puis on est toujours appelé par l'autre pays qu'on n'a pas encore vu.
Et j'avoue que par contre, c'est un vrai plaisir de revenir. Donc ça m'est arrivé. Donc notamment sur la Mauritanie, j'y suis allé 3 fois, 4 fois, je ne me souviens plus très bien maintenant. Et ça, c'est un vrai plaisir parce qu'en fait, quand on part en voyage, bon, il y a... Je dirais la découverte facile, exotique. Ah, c'est nouveau, c'est super, c'est génial. Et finalement, on reste un petit peu aussi en surface, enfin, bon, même si on y reste un peu de temps. Bon, moi, j'essaie de partir le plus longtemps possible parce que il y a que en passant du temps sur place qu'on, une fois qu'on a vu la partie émergée de l'iceberg, c'est bien d'aller en profondeur. Et alors là, de revenir sur des destinations où j'étais auparavant, on a déjà une petite connaissance de la langue, enfin, connaissance de la langue, en toute modestie, juste les présentations de base. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'essayer d'aller vers les gens. Enfin, moi, c'est ça, c'est qui me motive dans le voyage. Et du coup, de revenir dans un pays, on se sent beaucoup plus familier et effectivement ce que tu disais, moi c'est pareil, j'essaye de, quand je pars donc en voyage, de faire mon projet certes, mais même carrément de travailler sur place, parce que du coup le fait de vivre dans un pays avec des contraintes professionnelles, ça implique des problématiques du quotidien, et je trouve que c'est un bon moyen de découvrir la vie sur place plutôt que de rester à l'état touriste végétatif, quoi.
Quand on commence à avoir une routine sur place dans un pays, c'est qu'on est arrivé. Quand on commence à s'ennuyer aussi, c'est important alors c'est un luxe parce qu'il faut avoir le temps de rester suffisamment longtemps, mais quand on commence à s'ennuyer, je trouve que c'est le moment où on est vraiment arrivé quelque part.
Ouais.
Personne n'a plus de...
Oui.
Merci. Alors, bonjour, moi j'aurais 2 questions à vous poser. Et la première d'entre elles, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a... Sur le fondement du voyage, où il y a cette idée de faire l'expérience de l'altérité, ou plutôt de connaître les autres, d'aller vers les gens, comme vous dites. Mais il y a aussi cette autre chose qu'on voit, surtout dans vos photos, c'est à quel point elle mesure votre individualité, au final. Que ce sur quoi vous vous concentrez dans votre voyage, dans un sens, c'est sur votre ressenti et vous dites j'ai envie que les gens que l'art soit un moyen de communiquer du ressenti. Et voilà, je voulais que vous m'en disiez plus par rapport à ça. Et aussi, à quoi est-ce que vous pensez en voyageant?
C'est pour toi, ça.
Par rapport à comment dire donc, en fait, ça raconte moi, c'est ça, parce que le fait de l'acte photographique, dans la manière dont ce que je choisis de prendre en photo, au final... Forcément, c'est subjectif. J'ai absolument aucune velléité d'être objectif dans ce que je fais. Et puis, de toute façon, dans la photographie, quand on voit qu'on se bat en disant que la photographie, c'est la vérité, moi, ça me fait grimper au plafond parce que, de toute façon, de par le choix d'un cadrage dans une photo, on peut faire dire tout et son contraire. Donc, du coup, effectivement, je pense que j'essaye d'être en fait le plus libre possible au moment où je fais mes images, justement. C'est peut-être aussi par opposition à des contraintes professionnelles quand on fait ce boulot-là, de me dire, bah là, je le fais pour personne. Je me laisse porter finalement par le voyage, parce que je rencontre, parce que je vois, et j'essaye d'être... Mais c'est pas facile, hein, cela dit. J'essaye d'être, de ne pas me censurer finalement. Quoi. Et voilà, alors après, il y a une certaine naïveté dans les images aussi, c'est que bah, des fois, oui, on est naïf, quoi. Enfin, moi, en particulier, il y a des choses qui m'émeut, et donc, du coup, je vais m'attarder dessus. Et donc, voilà, quoi. Après, je veux juste pas l'imposer. Donc, ce que je disais par rapport à l'image, c'est que, voilà, en m'effaçant quelque part derrière ces héliotropes, derrière ces images-là, ces petits bouts de papier, et en étant dans cet environnement un petit peu indéfini, c'est juste avoir essayer d'être modeste par rapport à ça en disant voilà, moi c'est ce que je vois, je ressens, et à vous de vous l'approprier ou pas d'ailleurs, et à de l'interpréter. Finalement, quand quelqu'un vient me voir en me disant dans cette image-là, ça me fait penser à ça, et qu'il se l'approprie complètement, moi c'est le plus grand bonheur que ça puisse me faire, même si c'est pas du tout ce que moi j'avais ressenti sur place. C'est pas ça le plus important. Finalement, le plus important, bah, c'est aussi de faire voyager, au final. Enfin,
c'est vrai que les gens comprennent parfois, même à l'écrit, exactement l'inverse de ce qu'on a voulu dire. La diversité des réceptions est vraiment étonnante. En photo, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant parce qu'une image, ça s'interprète. Mais même les textes, parfois, un même texte, deux personnes peuvent avoir une lecture, mais complètement opposée. C'est, à chaque fois, ça me stupéfie.
Et alors, c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, effectivement, en fait, je trouve ça presque magique. Enfin, moi, je trouve, par rapport à l'expression artistique et la photographie ou d'autres, c'est qu'effectivement, même si j'essaie de me cacher derrière mes petits bouts de papier, en fait, je me cache pas du tout. Finalement, je suis complètement presque nu. Enfin, finalement, ça parle tellement, alors que quand on réfléchit, la photographie, au moment où je fais l'image, c'est un 125e de seconde, et pourtant, ça concentre tout ce que je suis en un 125e de seconde. Juste par le choix, le fait de faire cette image-là et pas autre chose, quoi. Mais ça, je ne maîtrise pas non plus. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le... C'est ça que j'appelle, alors c'est comme toi, la transmission ou le passage via le biais, alors soit du papier, de la lecture, soit de l'image, soit le son.
Est-ce que tu te donnes le droit d'être touriste, comme Julien ?
Moi ? Ah oui, complètement, oui, je... Si je ne ferais que ça, ça me frustrerait. C'est-à-dire que j'aurais envie d'aller au-delà de ça. Mais de toute façon, c'est la première étape. Même si je ne le veux pas, on arrive dans un pays. De toute façon, déjà, on est obligé. Enfin, pour avoir une enquête d'information, on se retrouve forcément à un moment donné avec des guides touristiques. Et oui, de toute façon, je me laisse emporter. Enfin, je ne sais pas, après, il faudrait définir qu'est-ce que c'est que le tourisme aussi à ce moment-là.
Demander à Julien, je pense que c'est...
Moi, j'avais choisi d'appeler mon bouquin précédent Touriste, qui était une compilation de récits de voyage. Je l'ai appelé comme ça parce que je me suis dit, je ne suis pas un aventurier, je ne suis pas un explorateur. Alors, je suis un peu reporter, mais les voyages que je décrivais là-dedans, ce n'étaient pas forcément des voyages professionnels. Donc, qu'est-ce que je suis ? Je suis un voyageur, donc j'ai choisi Touriste. C'est aussi justement, pour le coup, c'était un peu ironique, une forme d'humilité pour montrer que je n'étais pas... explorateur qui va gravir l'Himalaya ou aller au pôle sud, parce que moi je préfère les endroits chauds quand même. Et donc voilà, assumer son statut de touriste quand on est voyageur, c'est pas une plaie. C'est vrai que le terme touriste, il est souvent Il est prononcé avec dédain, mais c'est parce que le touriste est souvent ramené à sa caricature. Quand on qu'on soit en hôtel club au Club Med à Djerba ou qu'on aille voyager tout seul dans les Andes avec son sac à dos, on est un touriste. C'est des formes différentes de tourisme, mais voilà, c'est pas forcément péjoratif.
Alors, moi, je vais même aller plus loin que ça. C'est que moi, en fait, finalement, je joue aussi un peu avec ça parce que, en fait, ça m'arrange très bien. Ça m'arrange bien qu'il y ait finalement ce tourisme de masse, même si par le tourisme en général. Et d'ailleurs, si, heureusement qu'on ne me prend pas en photo quand je suis en reportage parce que je ressemble vraiment à un pur touriste. Mais ça me va bien parce que, du coup, ça me permet, moi, justement, d'être libre de faire en image ce que je veux sans qu'on. On me regarde d'un air suspicieux, il est professionnel, il fait son truc, etc. Donc moi, je fais... parce qu'aujourd'hui, comme on a tous des appareils photo, dès qu'on part en voyage, on prend en image. Si je peux me fondre dans le tourisme, c'est parfait. Ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire.
Et puis, on est toujours le touriste de quelqu'un, donc il n'y a pas de honte.
Quand on voyage et quand on est dans un pays, il y a des choses que l'on ramène assez facilement. Premièrement, c'est la photo, pour tous les touristes, bien sûr. Ensuite, on peut ramener du son assez facilement. Par contre, il y a deux sens qui, à mon avis, ont toujours du mal à être rapportés et compris. C'est le toucher et c'est l'odorat. Alors, dans tous ces pays-là, notamment si on parle de l'Afrique ou si on parle de l'Asie, le toucher et l'odorat sont des points assez fantastiques. Comment pensez-vous rendre ces éléments-là pour la compréhension des gens qui vous lisent ou qui vous regardent ?
C'est très juste ce que vous dites. Et d'ailleurs, quand j'avais fait mon premier roman, mon éditeur m'avait dit « mais il n'y a pas les odeurs ». Et c'est vrai que c'est peut-être à titre personnel, je suis moins sensible à ce sens-là, mais c'est vrai que c'est rarement bien rendu en littérature, et moi je sais que par exemple je ne sais pas très bien le faire. Et sur le toucher, c'est vrai que je n'y ai pas trop réfléchi. Je vais te laisser répondre à la question du toucher dans le voyage.
Alors là, pour le coup, en image, c'est... Alors c'est marrant parce que la question de l'odorat, c'est... Alors moi j'y suis très sensible, et d'ailleurs j'avais imaginé... De faire des expositions en odorama, je ne sais pas si ça existait, enfin, c'était comme ça, un espèce de fantasme où effectivement devant une image d'un souk ou je sais pas, d'une maison, avoir une espèce de diffusion comme ça de parfum qui fait effectivement partie du voyage. En plus, je crois que la mémoire olfactive, c'est une des mémoires les plus je sais pas comment dire, mais
persistante.
Oui, c'est ça. Enfin, moi je sais que j'ai le souvenir quand j'étais petit, j'avais 5 ans, j'allais dans une cuisine dans le sud de la France, il y a une odeur très particulière et dès que je retombe dessus, c'est énorme comment ça nous projette dans le passé. Enfin, donc c'est hyper important. Après en photographie, l'odorat, là je vois pas comment. Franchement, alors le toucher si, mais alors du coup moi dans mon écriture par rapport à ce projet-là. C'est un peu difficile puisque du coup il y a la texture de mon papier qui est omniprésente et qui va cacher la texture des choses, des objets, des peaux, du cuir, du sable, etc. Alors par contre ça lui donne une autre texture, c'est-à-dire que là le procédé photo, enfin l'image va amener une douceur de par le choix. Alors moi par contre, par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de ramener la température. Ce qui n'est pas facile, mais là c'est plus facile en image, finalement, en choisissant les couleurs dominantes, en ayant sur des couleurs froides ou des couleurs chaudes. Mais ça serait très intéressant de travailler sur comment rendre en image effectivement de l'odeur, une odeur âcre, une odeur, je sais pas, douce. Mais alors là, je vois pas comment.
Merci.
« Bonsoir. C'est une question pour tous les deux. Est-ce que vous diriez que le voyage est vraiment la condition sine qua non de votre inspiration? Ou alors est-ce que vous pourriez éventuellement envisager de partir au bout de la ligne de RER, comme l'avait fait Maspero, je crois, pour explorer et avoir ce regard comme ça un peu extérieur sur les choses et vous laisser inspirer?
On peut voyager à côté de chez soi. Hein. Une fois qu'on sort de chez soi, on est déjà un peu en voyage, que ce soit au bout du monde ou le quartier d'à côté. Il y a des gens différents qui vivent, donc il y a des histoires à raconter. Alors à titre personnel, je préfère aller très loin tant que j'ai encore la forme. Et puis quand je serai un petit peu plus vieux, je voyagerai en métro. Mais oui, vous avez raison, on peut voyager à côté de chez soi.
Moi, la rigueur, ça serait même peut-être le voyage ultime. En fait, c'est d'arriver à se sentir étranger chez soi.
Une espèce ça de... va loin, c'est beau.
Non, mais le premier reportage photo que j'ai fait, quand j'étais en sortant de mon école, j'habitais dans le 6e arrondissement à Paris et il y avait un SDF, un narqui vietnamien qui habitait en bas. Et j'ai pas eu du tout la prétention de dire allez, je vais aller dans la rue alors que je sais que moi j'allais au chaud, j'avais un appartement, etc. Mais j'ai quand même essayé de passer du temps avec lui et à voyager dans la rue avec ses yeux. Alors, comme j'avais pas la prétention de pouvoir le faire, en fait, on a fait un système qui était pas mal. Enfin, moi, j'étais assez content à l'époque et lui aussi, d'ailleurs, il s'est beaucoup amusé. C'est que donc c'était de l'argentique. Et en fait, je lui donnais un appareil photo jetable une fois par mois, je crois, ou une fois tous les 15 jours, parce qu'il en faisait vite, hein, les photos. Après, moi, il fallait que j'assure derrière. Et en fait, lui, je lui demandais qu'il me photographie la rue. Et moi, je passais, pareil, une fois par mois ou deux fois par mois avec lui, le week-end, ou comme ça, essayer de passer une journée complète avec lui pour voir le 6e arrondissement avec ses yeux à lui, même si, évidemment, c'est les miens. Mais bon, voilà, essayer de voir un petit peu son mode de vie. Et ça, c'est un vrai voyage. Là, j'ai voyagé, j'ai découvert des gens dans le quartier, des choses comme ça, quoi. Et effectivement, je pense que, comme tu disais, on peut voyager en bas, enfin en bas de chez soi. Et d'ailleurs, j'avais eu un collègue qui avait eu un projet de proposer. Vous parliez du RER. C'est un photographe qui a travaillé justement, qui a fait un travail qui s'appelle Voyage en périphérie. Et en fait, il a parcouru toute la banlieue parisienne. À la base, c'est un architecte, donc il est très sensible à l'urbanisme. Et son texte qui était très bien, c'est qu'il a dit qu'il ne s'est jamais autant senti en voyage qu'en débarquant à Gonesse, à Lannou, à Aubervilliers. Comme ça, lui s'est un peu orienté sur les bars HLM, les choses comme ça, quoi. Et il a fait un voyage fantastique en faisant juste le tour de Paris, quoi. Donc oui, le voyage. Après, effectivement, le fait de partir loin, c'est aussi, pour moi, les deux sont intéressants parce que le fait de partir loin, on se déracine complètement et surtout, on a d'autres cultures. Et quand on reste ici, même si justement c'est ça qui est difficile à mon avis de voyager en bas de chez soi, c'est que mine de rien, on a quand même des connaissances de la culture du coin et du coup, pour être déstabilisé, c'est plus difficile.
Et non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à priori, tu as trouvé un dispositif, un dispositif avec lorsque ça t'est arrivé près de chez toi. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de savoir si on interdisait à Julien de voyager, est-ce qu'il pourrait écrire ?
Je suis pas sûr. Mais pour revenir sur le truc, c'est vrai que le mouvement physique, le fait de changer son corps d'endroit, joue aussi sur sur ta sensibilité, sur ton âme, sur ton écriture. Donc ça diffère un peu peut-être du voyage en bas de chez soi. Et pour répondre à ta question précisément, est-ce que je pourrais écrire sans le voyage? J'ai pas énormément d'imagination, donc moi je raconte ce que je vis principalement. J'ai fait un seul roman, le deuxième qui est une fiction, une pure fiction, et c'est pas le plus réussi. Donc voilà, je crois que je préfère quand même raconter ce que je vis, et si je raconte ce que je vis à Paris au quotidien, ça va pas être très intéressant parce que c'est la vie de monsieur et madame tout le monde finalement. Donc quand je me téléporte, mes histoires peuvent avoir un peu d'intérêt. Donc c'est pour pas trop ennuyer mon lecteur que je préfère écrire uniquement sur mes voyages.
Juste moi par rapport au voyage et au mouvement, en fait, les fois où je me suis vraiment senti le plus libre, le plus senti bien, en fait, c'est dans le voyage. Mais c'est pas juste d'aller dans un pays ou une destination et de rester et de découvrir la culture, c'est également dans le mouvement. C'est-à-dire, par exemple, le dernier travail que j'ai fait là à Moscou, j'ai fait Paris-Moscou en train. Je voulais y aller en train parce que je voulais avoir cette étape du voyage et de mériter cette destination, mais que ça prenne du temps. Et finalement, dans le voyage en train entre Paris et Moscou, même si ça représentait qu'un quart de mon temps de ce voyage-là, finalement, c'est là où je me suis senti le mieux. Je crois que je suis profondément nomade, envie de bouger et de voir le paysage défiler comme ça et d'aller toujours de l'avant et de ne pas savoir... Alors, de ne pas savoir où on atterrit, c'est encore mieux, mais bon. Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce qu'il faut tout prévoir quand même. Hein. Moi, j'ai du mal à prévoir. C'est de partir au dernier moment... Et pourtant, c'est ce qui est le plus intéressant.
Ça a son charme. Ouais. Mais ce que tu décris, c'est il y a ce proverbe ou cette citation très célèbre qui est que c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Donc ça, c'est un cliché de la littérature de voyage, mais qui est très vrai pour tous les voyageurs, je crois. Ouais.
Pas d'autres questions? Bah, écoutez, je crois qu'on va se séparer là. Merci d'être venu. Et nous vous informons que la prochaine manifestation aura lieu le mardi 12 novembre. Ça sera une conférence de nouveau sur la traduction et la littérature. Et ça s'appellera « Traduire l'entre-deux des langues ». Avec Leslie Kaplan qui a écrit tous ses romans aux éditions POEL, et Rosie Penas Delpech, qui est traductrice, écrivain et directrice de collection à Actes Sud. Voilà, à bientôt.